grand témoin. Bonjour et heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Il s'appelle Jean-Pierre Kambila Kankwinda Wampunga. Il est homme politique congolais, conseiller politique et diplomatique du chef de l'État. Monsieur Kambila, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, grand témoin, meilleurs vœux.
Bonne année. Le plaisir de partager.
Merci. Alors, avec vous, dans notre entretien, nous allons parler de vous. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. On va parler de votre enfance, de votre parcours professionnel, mais aussi de vos activités politique. Mais avant tout cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes né à Kinshasa un certain 22 juillet 1950.
Exact.
C'est à Kinshasa où vous avez passé votre enfance.
Oui, j'ai passé toute mon enfance ici. J'ai été à l'école au collège Albert Ier, ce qui est devenu par suite le collège Mobutu chez les Jésuites.
Jusqu'en 6e des humanités.
Non, pas tout à fait jusqu'en 6e humanité. La suite des humanités, j'ai fait à ce qu'on appelait à l'époque l'atelier de la victoire. Je crois que ça existe encore. Voilà.
Et vous avez grandi dans quelles conditions?
Bon, s'il faut vraiment dire la vérité, je suis un privilégié. Je suis né dans une famille qui était considérée comme évoluée. Hein, à l'époque coloniale, c'était comme ça. Mon père, qui s'appelait M. Pierre Kankwende, était un homme assez connu dans la ville de Kinshasa, exploitant de salle de cinéma. Donc j'ai grandi dans une situation absolument confortable et sans trop de problèmes matériels.
Quel est le souvenir que vous a marqué pendant votre enfance?
Ben, une famille chrétienne, très unie. La musique, notamment, j'ai fait beaucoup de musique avec des amis dans cette ville, j'aimais beaucoup.
Beaucoup de musique, c'est-à-dire dans les petits orchestres du quartier?
Oui, absolument, oui, dans les petits orchestres du quartier, on s'amusait bien, donc dans ce qui s'appelait à l'époque Saint-Jean.
C'était pour s'amuser ou bien vous aviez un petit groupe qui se produisait?
Oui, on avait un groupe qui se produisait. Bon, ça n'a jamais été un groupe très important, mais enfin, c'était on s'amusait bien. On s'amusait bien parce qu'il fallait concilier les études et la musique. C'était
Est-ce que c'était pas une distraction, la musique, à côté des études?
Non, absolument pas. Bien au contraire. La musique aide beaucoup aux études, contrairement à ce qu'on pense. Moi, ça m'a beaucoup aidé.
Comment ça?
Ça m'a permis d'être très précis, parce que la musique, c'est très, très, très précis. C'est mathématique. Ça m'a permis de savoir comment travailler avec les autres, parce que vous ne pouvez pas faire la musique tout seul.
Mais comment vous conciliez les deux, les études d'un côté et puis la musique de l'autre côté?
Ça m'a jamais posé aucun problème. Aucun. Vraiment aucun problème. J'ai étudié plus ou moins facilement. La musique, c'était un loisir très important, un hobby important qui prenait du temps, mais bon.
Et votre père n'était pas contre
Il n'aimait pas ça, non. Il n'aimait pas ça.
Vous le faisiez en cachette?
Il aimait pas, mais enfin, il tolérait quand même. Hein. Il faisait semblant de vraiment pas aimer, mais au fond de lui, je crois qu'il aimait quand même un peu.
Est-ce que c'est parce que vous aviez envie de devenir musicien?
Non, pas vraiment. Bon, disons que... C'est jamais clair hein, dans la tête d'un enfant de 13, 14 ans, de 17 ans. C'est jamais très clair. Ça se bouscule tout ça dans la tête. Mais j'aimais beaucoup. J'aimais énormément la musique. Énormément. Je continue d'ailleurs d'aimer.
Alors, monsieur Kambila, vous êtes marié?
Bien sûr.
Père de combien d'enfants?
3.
Vous avez fait vos études au collège Albert, vous avez dit, primaire, et puis humanité
Un bout du secondaire, ensuite terminé à la télé de la victoire, on m'a expédié en Europe.
En Suisse, précisément,
oui, à Neuchâtel,
poursuivre vos études supérieures.
Exact.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études là-bas?
Bon, j'aimais beaucoup, ce domaine-là. Donc, j'ai commencé par faire une licence en sciences politiques. Ensuite, j'ai fait une licence en sociologie et anthropologie. Ensuite, j'ai fait un diplôme en économie d'entreprise. Donc,
ça fait beaucoup
ensuite,
de diplômes.
Ensuite, j'ai fait un diplôme en gestion immobilière. Donc, je suis expert immobilier.
Tout ça, vous avez fait en Suisse, ça?
Exact.
Beaucoup de diplômes comme ça, pourquoi?
Ben, parce qu'il était nécessaire d'apprendre. Vous savez, à l'époque, quand on était noir, congolais, on devait faire un peu plus que les autres pour avoir une petite place, une toute petite. Et comme je voulais absolument...
avoir une toute petite place, c'est-à-dire avoir une petite place dans la société pour être considéré, c'est ça?
Ben oui, oui, tout à fait. Il fallait montrer qu'on vaut quelque chose, il fallait montrer qu'on a les capacités, et il fallait se spécialiser, et j'ai fait les efforts qu'il faut. C'était pour ça, c'était pas parce que... Mais parce que je voulais absolument faire quelque chose.
C'était votre première fois d'arriver en Europe?
Oui, absolument, oui.
C'était quoi votre première impression?
Bon, je descends d'Europe en plein hiver, ne connaissant personne. Neuchâtel, c'est une ville de montagne, hein, pratiquement, dans le Jura plus. J'arrive là-bas, bon, heureusement, je rencontre quelques Congolais dans la ville, je crois qu'il y en a, il devait en avoir 4 ou 5 que je connais bien, dont un est resté d'ailleurs jusqu'à ce jour, je pourrais dire, mon meilleur ami. Ces gens m'ont accueilli. Je cherchais un logement, ils ont dit non, tu n'as pas cherché un logement, tu l'as. Enfin, la solidarité quinoise à l'époque, dès que tu parles du gala, vous allez au Nara.
Il n'y avait pas de discrimination?
Disons qu'il y a toujours de discrimination, dans la mesure où, à l'époque, hein, nous parlons du début des années 70, n'est-ce pas?
Ouais.
Dans cette ville, je me demande, c'était une petite ville de peut-être 300, 400 000 habitants. Il n'y avait certainement pas plus de maximum une centaine de gens à peau noire. Donc, il y avait l'étonnement.
Il y avait ces regards.
Les regards. Et parfois, d'ailleurs, une sorte d'admiration. On ne pouvait pas comprendre que les Noirs soient à l'université en train d'avoir quelquefois des meilleurs points que les Blancs.
Ça a étonné.
Un peu. Pas beaucoup, hein, faut pas exagérer.
Alors, après vos études, vous avez commencé à travailler
Oui, tout à fait. J'ai fait des études en Suisse. J'ai trouvé un petit travail. On m'a expédié à Londres parce que je ne maîtrisais pas très bien l'anglais. Je devais connaître l'anglais. J'ai passé une année et demie à Londres où j'ai fait un autre papier là-bas. Business Administration. Je suis revenu en Suisse et c'est là où je suis rentré dans ce qui est devenu ensuite mon métier, quoi, c'est-à-dire l'expertise immobilière. Mon travail consistait à visiter les immeubles, à donner des valeurs pour les sociétés d'assurance, pour les banques, pour les compagnies de pension, des choses comme ça, quoi.
Vous êtes expert en gestion immobilière.
Oui, en valeur immobilière. Le gérant, c'est celui qui gère un immeuble, c'est-à-dire que dans cet immeuble, il y a autant de locataires, il y a ça et ça et ça. C'est un travail. Le travail des experts consiste à établir des valeurs. Il y a un tel immeuble, qu'est-ce qu'il vaut, il va durer combien de temps, voilà, c'est ça.
Mais vous avez enseigné aussi la gestion immobilière.
Oui, tout à fait. J'étais professeur pendant quelques années.
En Suisse.
Oui, exactement. J'ai transmis aux jeunes gens ce qu'il fallait faire pour respecter les immeubles, pour les gérer, pour les... Voilà.
Professeur noir.
Il y en a des centaines là, aujourd'hui, à travers le monde. Il y en a des centaines aux États-Unis. Dans les meilleures universités du monde, il y a des Noirs et des Congolais, en plus, il faut être précis.
Mm-hmm. Vous avez donné cours pendant combien d'années exactement?
3-4 ans, hein, sauf erreur.
Puis vous avez arrêté?
Oui.
Vous étiez fatigué ou pour une autre raison?
Non, parce que... Bon,
le contrat était de 4 ans?
Non, c'est pas vraiment ça. C'est que tout simplement, j'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu faire autre chose et puis j'avais du travail. Hein, je ne sommais pas. J'avais énormément de travail. J'étais dans une entreprise qui était pratiquement une des plus grandes entreprises de la ville dans laquelle je travaillais, c'est-à-dire Genève, qui est une très très grande ville, une grande métropole internationale. Donc, j'étais là-dedans. J'avais assez de travail. Ça ne m'amusait plus d'aller me mettre devant 200, 300 jeunes gens en train de leur parler de ce que c'est qu'un immeuble, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut calculer.
Vous avez quitté le Congo en quelle année pour aller
72.
Et en 99, vous décidez de revenir.
Alors, lorsque vous avez commencé son combat, pendant toutes ces années, j'étais très 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 proche, j'étais dans la politique, avec des amis qui sont devenus des grands hommes politiques ici au Congo. Hein. Ensuite, on a toujours
été... C'était la politique à l'extérieur, à l'étranger.
Et bien évidemment, on a écrit énormément de choses dans les journaux, on a fréquenté les ambassades pour essayer d'affaiblir le gouvernement qui était ici en place à ce moment-là, celui du maréchal Mobutu. Voilà quoi, on passait notre temps à étudier, à faire de la politique et naturellement à faire de la musique.
Vous étiez dans quel parti?
Mouvement national congolais de Lumumba.
En Suisse, vous avez fait aussi la musique?
Et bien évidemment, écoutez, la musique,
donc, c'est quelque chose qui est en vous, quoi.
On aime ou on n'aime pas. Et moi j'aime. Et quand on aime, on compte pas.
99, vous décidez de revenir au pays. Qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer au pays?
En fait, je devais venir avec les amis Diangoulou, Cheokitundu, Mutombo, d'autres, Mukundi, nous étions tout un groupe. Mon frère Roger, en Suisse, à vouloir apprendre le train le train à prendre le train qu'avait lancé Mouzet. On a été pris, on a eu le contact à travers un ami très proche qui est devenu maintenant général Olinga ici, qui était en Allemagne avec d'autres et qui nous ont demandé de rejoindre Mouzet à Goma. Moi, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans une position de travail à ce moment-là. J'étais directeur donc à Genève de cette entreprise dans laquelle je suis rentré balayeur. Je suis devenu directeur de cette entreprise qui à l'époque s'appelait Julliard Immobilier. Je ne pouvais pas quitter mon travail comme ça. J'avais un contrat, je devais donner 2 ans avant de partir. J'ai donc fait ma lettre de démission dès que j'ai eu cet appel de Mouzet à travers mes amis. J'ai posé ma démission et au lieu de 2 ans, ils m'ont dit, bon écoutez, vous pouvez partir, mais vous devez passer 12 mois. Donc j'ai attendu, j'ai fait mes 12 mois pour respecter mon contrat et dès que c'est terminé, je suis rentré.
Est-ce que vous connaissiez Mouzet personnellement ou bien vous avez entendu parler de lui?
Non, Mouzet, connaître personnellement, c'est avoir un contact physique. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est un mensonge. J'ai vu Mouzet lors des rencontres, lors des réunions, comme un personnage politique. J'ai eu assez récemment, notamment en Hollande. Je me rappelle, il y avait eu, je ne sais plus quelle année, un procès qui a été organisé par des ONG hollandaises. Et Mouzet était là, il était invité, et comme nous. À l'époque, personne ne pouvait s'imaginer que c'est lui qui va incarner la révolution congolaise. Hein. C'était un homme politique important, bien évidemment, par rapport à tout ce qu'il avait fait par le passé. Mais il y en avait quelques-uns. Il y avait quelques-uns qui venaient en Europe, qui circulaient partout là-bas. Personne ne pouvait imaginer que c'était le vieux Laurent qui va prendre les choses en main. Donc, oui, on est considéré comme un Congolais parmi d'autres qui essaie de déboulonner l'homme fort de Kinshasa.
Quand vous avez reçu l'invitation, vous avez cru en lui, vous avez cru en ce qu'il faisait?
Immédiatement. Il n'y avait pas de doute à avoir. Nous avions grandi dans l'envie, la détermination d'en finir avec cette dictature. Donc, il n'y avait pas de doute. La seule chose qui m'a retenu à Genève, puisque j'étais à Genève à cette époque-là, c'était mon travail. Je ne pouvais pas, comme ça, je risquais des indemnités en millions, parce que j'occupais quand même un poste d'une certaine importance. Je connaissais beaucoup, beaucoup de clients. Sous des dossiers de plus en millions de francs suisses, je ne pouvais pas comme ça du jour au lendemain partir. Je devais lancer la procédure là-bas, montrer mon successeur à tous les clients, discuter avec eux, construire une nouvelle confiance par rapport à celui qui me remplaçait avant de partir. Et j'ai respecté cette procédure-là. D'ailleurs, ce qui m'a la manière dont j'ai respecté la procédure a fait que quand je suis parti avec la promesse de l'entreprise de revenir pendant les 5 ans. J'aurais pu revenir et réoccuper ma place pendant 5 ans encore. Bon, les 5 ans sont passés, les choses ont évolué et je suis très bien chez moi.
Et en 99, lorsque vous revenez, c'est pour faire quoi? Vous avez adhéré à l'AFDEL?
Bien oui, j'ai adhéré à l'AFDEL avec la détermination de donner ma petite contribution à l'évolution de mon pays.
C'était quoi cette contribution que vous avez apportée?
Ben, je pensais que avec l'expérience, les études que j'avais faites, les langues que je connais, que je pouvais faire quelque chose pour ce pays, que je pouvais donner ma petite pierre de contribution. C'est comme ça qu'on dit.
Votre petite contribution, quoi.
Voilà.
Est-ce que vous pensez que vous avez apporté quelque chose?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, j'étais convaincu que le Congo aurait pu m'utiliser dans le domaine de l'immobilier, parce que ça, je connais très bien. Dans de l'immobilier, du logement, de l'organisation, ce genre de choses, oui, je pensais.
Mais malheureusement, on ne vous a pas utilisé dans ce domaine-là.
Il n'y a pas de malheureusement. La vie, j'appelle ça une bousculade de circonstances. Et dans cette bousculade de circonstances, il y a d'autres opportunités qui se créent. On change d'avis, on change de direction et on fait des rencontres et voilà quoi.
Alors, on va souffler un peu, Jean-Pierre Kambila, avant de poursuivre notre entretien. Comment vous passez vos moments de détente?
Musique, maman. Rien que la musique.
Vous avez déjà composé combien de chansons? Pourquoi vous avez commencé à faire la musique depuis longtemps, très jeune, disons, 14 ans, vous m'aviez dit?
Tout à fait.
Vous avez composé de chansons?
Ben, en tout cas, je suis sûr que vous avez déjà dansé sur une de mes chansons. Mais je ne vais pas vous dire laquelle parce que je ne signe pas.
Pourquoi? Dites-moi que je sache.
Non.
Comme ça, je saurais que chaque fois que je vais danser...
Je suis sûr, mais seulement, bon... Ça serait une trahison.
Pourquoi une trahison?
C'est mais parce que je ne signe pas mes chansons. Il faut que je signe une chanson pour que je puisse proclamer plus tard quelle est la mienne.
Vous avez vendu ça à quelqu'un?
Je ne vends pas, je donne.
Bon, vous avez donné ça à quelqu'un?
Oui.
Un grand musicien de ce pays?
Je ne sais pas s'il est grand ou pas.
Mais pourquoi vous ne le dites pas, monsieur
Kabila? Mais parce qu'il ne faut pas le dire. Qu'est-ce que c'est que cette manière de donner quelque chose à quelqu'un puis d'aller revendiquer la chose des
années plus tard? Non, on vous demande pas de revendiquer. Mais... juste connaître la chanson, ça ne coûte rien.
Non. Ça, je ne le dirai jamais. Vous pouvez, même si vous me torturez, même si la torture la plus...
Alors, il ne fallait pas nous le dire.
Mais non, je vous dis parce que c'est un fait. Je vous dis que j'aime la musique et je continue de la faire. Si vous me demandez, si vous avez un chanteur aujourd'hui qui sait chanter, vous me donnez un thème, je vous écris une chanson. Je vous la donne, vous la faites chanter. Mais ça, ça sera votre chanson à vous. Et vous pourriez dire qu'elle est à vous.
Okay.
Elle ne sera pas à moi parce que je vous l'aurais donnée. Et je suis prêt à le faire.
Alors vous ne vous limitez pas seulement à écrire, vous chantez aussi.
Ça m'arrive, ouais. Et très souvent d'ailleurs.
Uh-huh. On peut. Vous pouvez nous faire un petit acapé là.
De quoi?
Une des chansons que vous aimez bien.
Que j'aime bien.
Yeah.
Je vais vous amener très 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 loin, avant que vous soyez né. Je crois que c'est mieux que je vous chante une chanson des années 50.
Allez-y, peut-être que je la connais.
Oh non, impossible. si vous la connaissez, je vous offre une bouteille de champagne.
Ok, allez-y.
Vous savez que c'est très difficile de chanter assis, hein.
C'est pour ça
qu'en général...
On va ajuster le micro, vous allez vous mettre debout.
Non. Ah, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Je vais faire une chanson de Joseph Kabasilé, chantée, je crois que ça devait être dans les années 54-55. J'étais tout, tout, tout petit.
Vous n'aviez que 5 ans?
Je pense, oui, tout à fait. Mais non, vous savez, il y a des chansons, elles restent dans la tête. Je crois que ça devait être comme ça. Moi, si nangai, moi, si qui toque... Moti mamangai yo mapanso mangai tikanano makambazo ba toyo kana tulingana tosona kilobi nandako tinandinyoke inabago tinayo libaleko bonga bongote yoko mondi sangai pasi.
Mais ça me dit quelque chose, cette chanson. Mais... on dirait que j'ai écouté ça quelque part, mais personnellement, je ne la reconnais pas. Mais la mélodie me dit quelque chose.
C'est une chanson de la musique congolaise, hein. C'est quelque chose qui appartient au patrimoine congolais, donc c'est normal que vous ayez quelques souvenirs.
C'est quoi votre plat préféré?
Oh, vous savez, tous les quinois ont le même plat préféré.
Quoi? La chikwang?
Non. Les haricots. Si vous voulez connaître un vrai quinoa, demandez-lui. Qu'est-ce que vous voulez que vous préparez? Il vous dira, faites-moi des haricots.
Vous êtes sûr?
Ouais. Nous aimions beaucoup de ce qu'on appelait, nous, ici, dans notre langage de rue, madidi. On appelait ça madidi. Mm-hmm. Et à l'Est, on mange plutôt des haricots verts, des choses comme ça, des petits pois. Nous, c'était des haricots, de ce qu'on appelle, en bon français, des flageolets. Donc, ces haricots blancs... on faisait à la sauce tomate, bien pimentée, avec le poisson, le rouget. On appelait ça ici mbissi à la mer. C'est le rouget, le poisson rouge. Hein.
Okay.
Voilà, qui nous venait de l'Atlantique, au travers d'une société qu'on appelait Père Marco à l'époque.
Qui n'existe plus.
Non.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
L'hypocrisie. La lâcheté, le manque de courage et ses opinions. Voilà pourquoi je dis toujours ce que je pense.
Ce sont là les caractéristiques des hommes politiques congolais, tout ce que vous venez de citer là. C'est ce qu'ils se racontent.
C'est votre avis?
Non, c'est pas mon avis, c'est ce que les gens racontent. Ce que les gens disent.
Je connais beaucoup d'hommes politiques congolais, de la majorité comme de l'opposition, qui sont très sincères. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il n'est pas sincère. La vie, elle est très diverse. Il est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord avec les gens. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas sincères.
Alors, on va vous faire plaisir, M. Jean-Pierre Kabila. On va vous dédier une chanson.
Oh oui, j'espère qu'elle est belle. Hein?
Vous avez envie d'écouter quoi?
C'est à vous, Pascal Rochereau.
Quelle chanson?
Majolina.
D'accord, on va demander à...
Ça va être difficile, hein.
Pourquoi?
Bah, si vous pouvez la trouver, mettez-la.
On a toutes les chansons ici à Radio Okapi. Nous sommes très riches, hein. Alors, on va demander à Jean-Claude Siala de nous proposer la chanson Majolina de Tamoulay pour le plaisir.
S'il n'y a pas Majolina, je me contenterai de Ndaya Paradis.
D'accord. Ndaya Paradis ou Majolina, Jean-Claude Siala, pour le plaisir de Jean-Pierre Kambela et aussi pour le plaisir de tous ces auditeurs qui aiment la musique de Tamoulay Rochereau. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Akamata kiyolokola ne mwana Majolina sokio kabati mokano mama e otala kapesima nenge yo kangi motema ya sole poka mwisanga tanga bambula na vanina yo bafamina nae na yo basi bamesana akamata kiyolokola ne mwana Majolina Sokio kamati mokano, mama e mutala kapesima. Majolina, mama, nawela.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Les grands témoins, vous pouvez découvrir aujourd'hui Jean-Pierre Kambila Kankwende Wampunga. Il est en politique congolais et conseiller politique et diplomatique du chef de l'État. Jean-Pierre Kambila, on avait déjà commencé à parler politique. Vous nous avez dit que vous avez commencé la politique à l'âge de 21 ans. Qu'est-ce qui vous avait attiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la politique?
Bon, devenant jeune adulte, j'avais pris conscience que le Congo vivait sous une dictature et que cette dictature avait pris naissance dans un crime horrible, qu'on avait en fait tué l'homme qui représentait l'espoir de mon pays. Et en pris conscience, j'ai commencé à m'interroger, à savoir pourquoi c'était comme ça. Et à l'époque, il y avait un courant critique socialiste très 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 important. Dans les milieux des élèves et des étudiants, j'ai pris cette conscience-là, j'étais tout jeune. Et dès que je suis arrivé à l'époque, en Europe, j'ai rencontré des gens parmi lesquels j'ai cité quelques-uns, des gens comme Léonard Moulopo, Léonard Sioki Tundu, François Olinga, et beaucoup d'autres, hein. C'est difficile de se rappeler tout le monde. Et dans ces milieux-là, il n'y avait que ça, hein. On ne parlait que de ça. En Europe, en dehors des études, il n'y avait que ça. Bon, moi je faisais la musique parce que j'aimais ça, mais tous les amis, ils étaient... Toute la vie de la jeunesse congolaise, là-bas, ils tournaient que autour de ça. Nous étions des gens très très soucieux de ce qui se passe dans notre pays. Lambert Mende, voilà, j'ai oublié Lambert, qui est venu après, mais quand même il est très très vite... entrer aussi dans ce milieu-là. Juliana Lumumba également. Donc, on était... c'était inévitable, disons, dans ce milieu-là. Inévitable. On parlait que de ça. Okay. Et puis moi, je faisais un peu de musique, quoi. Je les faisais rigoler un peu avec mes chansons.
Beaucoup de gens critiquent quand même, hein, les politiciens congolais ont dit qu'ils ne sont pas constants dans leur...
dans leur choix, dans leur façon de faire les choses.
Voilà, dans leur choix, voilà, dans leur façon de faire les choses.
Oui, il y a cette catégorie de politiciens congolais qui pensent que la politique est un métier au sens où ce métier doit donner à manger. Ce métier doit vous permettre de vous entretenir et d'entretenir les vôtres.
On dit que c'est moi le plus facile pour se faire de l'argent.
Voilà. C'est, dès que vous rentrez dans ce jeu-là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous n'aurez pas de principe. Vous n'aurez pas de principe, vous n'aurez pas d'objectif, vous n'aurez pas de but, vous n'aurez aucune discipline. Mais il existe quand même dans ce pays des hommes politiques qui ont fait la preuve du contraire. Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Il avait les moyens, c'était un type intelligent, il aurait pu faire professeur d'université, si vous voulez, il aurait pu faire... mais il a consacré la plupart du temps de sa jeunesse et de beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence à faire de la politique, en ne gagnant pratiquement rien, en vivant peut-être pas dans la misère, mais dans des situations extrêmement difficiles. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont été jusqu'à donner leur sang. Alors on ne peut pas mettre tout ce monde dans un même panier. C'est vrai qu'il y en a qui, pensent que c'est un métier comme les autres. On peut être politicien comme on peut être menuisier, quoi. On gagne sa vie, voilà.
Alors du MNC, vous êtes passé par, vous avez dit, à l'AFDL.
Oui.
de l'AFDL au PPRD.
AFDL, CPP, CPP, PPRD. Voilà, c'est très simple.
Pourquoi le choix du PPRD ?
Mais parce que c'est le PPRD, à mon avis, cet avis peut être discuté, il est certainement discutable, mais je pars de l'idée que dès lors que Mousset arrive au Congo, c'est lui qui symbolise la lutte de Patrice Lumumba. Donc il faut le suivre. Il n'y a pas de discussion. On le suit. Il a l'AFDL. Mais l'AFDL, c'est une organisation circonstancielle. C'est-à-dire que Mousset était obligé de rentrer, de créer cette affaire-là avec des gens avec lesquels il n'avait pas confiance. La poste, c'est qu'il avait dit que c'était
un conglomérat d'aventuriers.
Il devait le faire parce que la politique exige parfois ce genre d'accord. En fait, il est arrivé à son but. Et dès qu'il est arrivé à son but, il a balayé cette affaire-là. Et c'est le CPP qui a succédé. Or, le CPP ne pouvait pas survivre à l'étape suivante, parce que l'étape suivante, c'était l'étape de la démocratisation. Et là, nous devrions trouver une organisation, mettre en place une organisation qui continue de suivre le même objectif, c'est-à-dire mettre en œuvre, mettre en application l'essentiel des idées de Patrice Lumumba, en les adaptant, aux circonstances du moment actuel. Et aujourd'hui, sur l'échiquier politique congolais, le PPRD représente la plus grande, je ne dis pas la seule, je dis la plus grande organisation qui porte ces idées-là.
C'est pas le Palou ?
Mais c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas la seule.
Vous avez dit la plus grande organisation.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le PPRD est plus grand que le Palou. Le PPRD, c'est le plus grand parti du pays, de ce pays. En nombre d'élus, nous sommes le plus grand parti. C'est seulement pour ça. Le jour où le Palou aura plus de militants que nous, il y a encore un problème. Et puisque même le MLC, il existe encore. Le jour où il aura plus de militants que nous, plus de lits que nous, ben il sera le plus grand parti de l'Ouest.
Alors, depuis janvier 2009, vous êtes conseiller politique et diplomatique du président de la République. Comment vous avez fait pour arriver là ?
Comment on fait ? Je ne sais pas. Comment on fait pour arriver ? Je ne sais pas. Bon, ben écoutez, je connais des gens qui sont dans ce milieu-là depuis plus de 40 ans aujourd'hui, puisque nous sommes en 2015. Donc, ces gens me connaissent, ils connaissent mon parcours. J'ai oublié de dire que j'écris des livres.
Ouais.
J'ai accompagné la marche de Mousset avec un livre, Congo, la solution à l'homobiste. Donc dans ce milieu-là, il y en a très peu qui ne connaissent pas Jean-Pierre Kambila depuis longtemps. Donc il était tout à fait normal qu'un jour, on dit, viens apporter ta petite contribution. Et c'est ce que j'ai fait.
2009, ça fait pratiquement 6 ans que vous êtes aux côtés du chef de l'État.
Officiellement, oui.
Officiellement, officieusement, c'est plus que ça ?
Depuis le départ.
Depuis le départ, c'est-à-dire depuis 2001 ?
Depuis que le chef d'État est président de la République, il connaît Jean-Pierre Kambila. Je parle à la radio, donc c'est pas un secret. Si vous voulez avoir une éducation précise, j'ai participé à la première tournée du président de la République en Europe. J'étais avec lui. Donc il ne faut pas penser que ceux qui ne sont pas conseillers du président de la République ne sont pas autour de lui. Il y en a énormément qui sont dans la cité, qui sont dans le pays, qui travaillent pour que ce pays avance. Il ne faut pas considérer que les titres officiels.
Le pays avance, selon vous ?
À mon avis, il est debout.
Comme l'a dit le chef de l'État.
Parfaitement.
Vous le dites parce que vous êtes membre du PPRD ou encore parce que vous êtes son conseiller politique et diplomatique.
Je le dis parce
que vous le dites par rapport à ce qui se passe réellement dans le pays.
Je le dis parce que je le constate. Ce pays était divisé en trois. Les gens de Kisangani ne pouvaient pas venir ici. Même ici à Badolité, ne pouvaient pas venir ici. Aujourd'hui, il est uni. Ce pays était occupé par les troupes étrangères pendant longtemps. Aujourd'hui, ils sont dehors. Vous me direz, il y a encore quelques postes de rébellion. Oui. Ce pays avait une inflation à trois chiffres. Ce pays n'avait aucune croissance.
Ça, c'est le discours de tous ceux qui sont dans la majorité.
Non, ce n'est pas un discours, madame. Je ne vous tiens pas à un discours. Je fais un constat avec vous. Si vous ne le faites pas, je vous le rappelle. Parce que ça, ce sont les réalités. Attention, en général, ce que nous avons, nous ne le voyons pas. Et parfois, il est nécessaire qu'on vienne nous le rappeler. Ce sont des réalités. Faisons attention, ne perdons pas ces réalités. Ce pays a encore beaucoup de difficultés. Mais maintenant, il va affronter ces difficultés en étant debout. Et quand vous êtes debout, vous affrontez mieux vos difficultés. Et ce pays est debout par le fait du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il est debout.
Bon, tout le monde ne partage pas le même point de vue que vous, de la majorité.
C'est la vie elle-même. Personne ne voit le rouge de la même manière. Il y en a qui voient le rouge à travers le violet, d'autres qui voient le rouge à travers l'orange, d'autres encore à travers le rose.
Vous êtes écrivain,
oui,
Pierre Kabila.
Tout à fait.
Vous avez à votre actif plusieurs publications.
Oui.
Sur le Congo.
Exact, oui. Non, tout de suite, j'ai écrit un seul livre qui n'est pas sur le Congo.
Et il parle de quoi, celui qui n'est pas sur le Congo?
Sur l'expertise immobilière.
Ah, d'accord. Alors, vous avez écrit la question de la cohésion nationale.
Exact.
En RDC.
Tout à fait.
Elle existe, cette cohésion?
Elle est à construire, parce qu'il faut que toutes les cohésions se construisent. Il n'y a pas un pays qui peut se dire, c'est fini, nous sommes cohérents. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est la preuve que tout le monde cherche la cohésion. Entre hier et ce matin, on ne parle que de ça en France. On utilise peut-être d'autres mots, mais c'est exactement la même chose. Lorsque le pays est en difficulté, tout le monde doit se mettre ensemble pour faire face à ces difficultés-là.
Or, chez nous, elle est à construire, cette cohésion.
Partout, elle est à construire. Partout. Même aux États-Unis, la plus grande puissance du monde, elle est à construire. Et il la construit tous les jours, tous les jours. Et ce travail-là n'a pas de fin. Il se terminera jamais. Mais il ne faut pas négliger. Il faut le faire. Il faut toujours le faire. Il faut travailler pour ça. Et là-dedans, la musique a un rôle très important. Enfin, ça, c'était une parenthèse.
Ça ne vous lâche pas, hein, la musique. L'ouvrage, c'est sous les cinq chantiers.
Non, mais écoutez, regardez la musique congolaise. C'est le fruit de quoi? De qui? Quand vous écoutez aujourd'hui la guitare qui est sous la belle voix de mon jeune frère Kofi Olomide, c'est quoi? C'est Jean Bosco Abayeke, au Katanga. Tout l'accompagnement de Kofi aujourd'hui, c'est l'accompagnement de... C'est le blues du sud Katanga. Personne ne fait attention à ça, mais c'est ça. Écoutez bien. Écoutez le tam-tam derrière, qu'il y a derrière. Ou c'est le tam-tam mongo, ou c'est le tam-tam luba. Partout. De toute la musique congolaise. Regardez les grands ensembles mythiques qui ont fait la musique de ce pays, et musique à travers laquelle les populations sont venues s'agglutiner pour créer la conscience congolaise. Ça a toujours été un ensemble des gens venant de divers coins de la République. Regardez les grandes vedettes. Je veux prendre que deux exemples. Vous prenez Franco Lombo Makiadi. Dans le sang de Franco, vous avez du sang Bakongo, vous avez du sang Mbouza, Ngombe, pardon, vous avez du sang Batetea, dans cette personne-là. Non seulement le sang, mais aussi l'éducation, parce qu'il a été en relation avec ces gens. Regardez ce que ça a donné. Regardez Joseph Kabasele. Il a le sang du Kasaï, et il a le sang de l'Équateur. Il est né au Bakongo. Regardez ce que ce mélange a donné. Des merveilles. Et c'est autour de ça que le peuple congolais se construit aussi. Pas que ça, mais aussi.
D'accord. Ouais. Alors, vous avez publié notre voix sur les cinq chantiers et la reconstruction de la RDC. Les cinq chantiers, on n'en parle plus. Hein. Maintenant, c'est la révolution de la modernité.
On en parle?
Non.
Mais pour arriver à la révolution de la modernité, il faut qu'il y ait des chantiers. Comment vous allez faire une révolution pour moderniser
votre
pays?
D'abord, le slogan, c'était les cinq chantiers, mais maintenant, c'est la révolution de la modernité.
Déjà, madame, si je peux me permettre, ce n'est pas un slogan, c'est un concept. C'est un concept parce qu'il y a une signification derrière. Il y a une signification. Les cinq chantiers symbolisent les secteurs dans lesquels nous devons faire des efforts. Mais pourquoi nous faisons ces efforts-là? C'est pour révolutionner notre pays. Révolutionner pour aller quoi? Révolutionner pour aller vers quoi? pour aller vers la modernité. Donc tout ça a un sens, tout ça a une direction. Ce ne sont pas des slogans qui tombent comme ça, comme si...
Est-ce que nous sommes déjà arrivés à la modernité ou bien nous sommes en route
Madame,
vers la modernité?
La modernité, c'est une recherche permanente, c'est comme la cohésion. La modernité, elle ne s'arrête pas. Les plus grandes puissances du monde, la Chine, les États-Unis, le Canada, la France, ils ont arrêté la modernité. Vous-même ici, le téléphone que vous aviez il y a 6 mois, vous l'avez certainement, vous l'avez plus. Vous avez trouvé un autre parce que on améliore tous les jours, petit à petit. Chaque jour qui passe va amener le Congo à faire un peu plus d'espace vers la modernité. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. C'est ça. C'est vers ça que nous voulons convaincre les élites congolaises. C'est ça qu'il faut faire. Et voilà pourquoi le président, lorsque on insiste sur 2016, il dit c'est de la distraction. Parce qu'il faut se consacrer sur les efforts qu'il faut faire pour faire avancer les choses. Ne fût-ce que petit à petit.
Alors, vous appuyez les propos du chef de l'État. Distraction lorsqu'on parle de 2016 ou aujourd'hui.
Mais complètement. Mais complètement.
Voilà, Jean-Pierre Kabila. Nous sommes à la fin de notre entretien. Je vais ajouter aussi que vous êtes promoteur des projets agricoles dans la province du Bas-Congo. Vous êtes toujours promoteur?
Bien sûr. Je fais de
l'agriculture. C'est quelque chose qui vous passionne aussi?
Ah oui, absolument. Mais écoutez, vous avez 12 millions d'habitants à Kinshasa. Comment vous allez faire si vous ne faites pas, si vous ne préparez pas à manger pour eux, pour demain? Il faut le faire. C'est ça la révolution de la modernité. Donc j'y participe, pas seulement en parole, pas seulement en faisant de la musique, mais aussi en travaillant dans l'agriculture.
Alors, un dernier mot, peut-être des vœux.
Bonne année à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Beaucoup de travail, beaucoup de tolérance, un peu de patience. Beaucoup de détermination, de sérieux.
Merci Jean-Pierre Kambila Kankwindawa Mpunga, c'est vous qui étiez notre grand témoin. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la prise de son micro qui l'écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocaping.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.